diront que, ça va, que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Sous l'Ancien Régime, un certain nombre de compositeurs se sont prêtés à des canons énigmatiques, autant de partitions qu'on ne pouvait exécuter sans avoir d'abord réussi à résoudre l'énigme qui révélait le canon, c'est-à-dire la règle du jeu ou la clé pour bien lire la partition. 5 siècles plus tard, on ne sait toujours pas si ces canons énigmatiques se voulaient purement ludiques ou reposaient sur un sens plus ésotérique, on pense qu'ils avaient une valeur pédagogique, mais on semble hésiter à leur prêter une portée pleinement spéculative. Mais l'ignorance et les hésitations qui les entourent sont peut-être feintes pour prolonger le plaisir de résoudre toutes ces énigmes. Pour ce numéro Résoudre, Métaclassique a interrogé quelques participants des entretiens de musique ancienne en Sorbonne qui se sont tenus en juin 2024 et qui étaient dédiés à ces canons énigmatiques. Vous allez pouvoir entendre David Moroney, René Barbre, Félix Véry, Vincent Chaumienne et pour commencer Vijay Ratine qui cherche à résoudre les énigmes contenues dans l'offrande musicale de Jean-Sébastien Bach. Vijay Ratine, quand on dit que Bach fait des œuvres à clé avec toute une symbolique des nombres et ainsi de suite, faut pas oublier que c'est un Bach assez tardif, c'est vers la fin de sa vie seulement qu'il code les choses comme ça.
Oui, alors je pense qu'il peut y avoir de nombreuses références même dans ses œuvres de jeunesse, mais c'est vraiment à la fin de sa vie qu'il commence à s'attarder là-dessus, à essayer de crypter de plus en plus sa musique et à rajouter, on va dire, des sortes d'auto-références à son nombre fétiche, donc le 14. Et on peut retrouver aussi d'autres références avec le 41 qui fait J.S. Bach, ou encore 158 avec Johann Sebastian Bach.
Oui, le 41 qui est le rétrograde de 14, donc ça tombe particulièrement bien. Ça s'appelle la signature gématrique.
Oui. Ah oui, qui vient de la gématrie, la gématria, qui est en fait le fait de transposer un alphabet sur des nombres, ou même plutôt l'inverse, de transposer les nombres sur l'alphabet, donc de commencer avec le A qui est l'équivalent du 1 et B qui est 2 et ainsi de suite.
Sauf qu'il prend un alphabet à 24 lettres pour y arriver.
Oui, il prend l'alphabet latin parce qu'à ce moment-là, du coup, le I et le J représentent la même chose et du coup sont écrits de la même façon dans les traités. On retrouve, par exemple, Jésus Christus, mais avec un I. Et le U et le V
sont aussi la même lettre.
Voilà.
Alors, une fois qu'on a pris un peu connaissance de ça, on peut commencer à voir des références et des emboîtements numérologiques à peu près partout.
Oui, et c'est le danger. Du coup,
il y a un danger de surinterprétation qui est immédiat, en fait, c'est ça ?
Ah oui, je pense que parce qu'on peut très vite tomber dans un ésotérisme où on peut faire dire n'importe quoi aux partitions. Et je pense que c'est un danger. Il faut s'aventurer là-dedans vraiment avec délicatesse et sans perdre un esprit critique. De ce que peut vraisemblablement vouloir le compositeur et surtout ne pas faire dire des choses au texte au-delà de ce qui est écrit.
C'est pourquoi il est prudent de regarder un peu le contexte dans lequel il va écrire telle ou telle partition, et puis aussi à qui il va l'adresser. Et dans le cadre de l'offrande musicale sur laquelle vous, vous travaillez, c'est une œuvre de 1747 qu'il écrit dans un contexte tout à fait particulier.
Oui, il l'écrit... Alors d'après les textes, il l'écrit après sa visite à Potsdam, la cour de Frédéric II. Mais,
Frédéric II qui a embauché son fils, Carl Philippe Emmanuel.
Voilà, exactement, ouais. Son deuxième fils. Mais on peut se demander en fait si l'offrande musicale, en fait la réelle genèse n'a pas commencé avant. Alors beaucoup de musicologues qui ont travaillé sur le sujet pensent déjà que le thème n'est pas de la plume de Frédéric II, mais plutôt de celle de Bach ou encore de Carl Philippe Emmanuel. Et je partage plutôt cet avis dans le sens où il me semble que la genèse de l'offrande musicale aurait commencé un petit peu avant la visite à Potsdam.
Dans cette offrande musicale, on trouve donc des sortes d'énigmes qui peuvent être aussi bien des devinettes que des messages théologiques. Comment ça se fait que des messages théologiques cohabitent avec un registre beaucoup plus léger qu'est le registre de la devinette ?
Alors c'est vrai qu'il y a du sacré en fait dans toute l'œuvre de Bach, qu'il s'agisse de musique sacrée ou de musique profane, et on peut y voir là en fait plusieurs étages de réponse à ça. Alors au tout début, on peut se dire qu'il s'agit en fait d'une blague que Bach donne au roi en se disant « cherchez, vous trouverez », parce qu'il ne donne pas la solution de l'énigme. Mais on peut se dire aussi, est-ce que Bach, en tant que prédicateur musical, n'inspirerait pas le roi qui est profondément athée à devenir croyant?
Et est-ce que l'espoir est fondé de rendre quelqu'un croyant en lui donnant des petits canons énigmatiques à décrypter ?
Alors ça, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais il aurait fallu demander la réponse à Bach. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense, quand même une part de taquinerie et quand même quelque chose d'assez... spirituel là-dedans. En fait, on peut retrouver plusieurs références bibliques à l'intérieur de tout le corpus de manière générale, et surtout de ce que peut évoquer ce thème qui est assez particulier, qui a des choses du point de vue rhétorique qui sont assez intéressantes, comme le saut de septième diminuée ou la descente chromatique, qui peuvent en fait porter aussi ce message théologique.
Alors oui, parce que vous dites aussi qu'il pourrait y avoir de la taquinerie sous ce qui peut se présenter aussi comme de la flatterie. Donc on a par exemple un canon, per augmentationem, qui va en augmentant à certains endroits, qui pourrait mimer une promesse de prospérité pour le roi. Mais vous doutez de la pleine sincérité de Jean-Sébastien Bach dans sa volonté à voir le roi prospérer, justement parce que plus tard dans la partition ça se dégringole en fait.
Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait la citation latine mime le fait que la troisième voie, donc en fait la deuxième voie canonique se joue par augmentation, mais en fait on a ce que j'expliquais, c'est qu'il y avait en fait une sorte d'hypotypose, une figuration graphique de la citation latine, et que on pouvait voir en fait en musique la fortune du roi qui augmentait, sauf que justement à la reprise, on voit que l'anabase qu'on avait, le mouvement ascendant qu'on avait en quadruple croche devient une descente en triple croche, et là on peut avoir quand même une vision de l'inverse de la citation latine.
Alors, est-ce qu'il faut en conclure qu'il passe un message inverse à celui qu'il a commencé par passer, ou bien est-ce que tout simplement le jeu est tel que tout ce qui est potentiellement déchiffrable s'annule aussitôt ?
Je pense qu'il peut lui faire passer un message, parce que on a le même cas dans le canon qui suit, mais parce que de toute façon, Bach n'était pas d'accord avec Frédéric II sur plein de sujets. Ce n'était pas un souverain qu'il appréciait particulièrement, au contraire, c'est quelqu'un qu'il n'aimait pas. Et pourtant, voilà, ça peut paraître curieux qu'il lui dédie une œuvre telle, alors que la plupart des autres dédicaces, ce sont des souverains pour lesquels il a travaillé. Là, ce n'est pas le cas, c'est son fils qui y travaille. Mais du coup, on peut aussi penser de se dire est-ce que l'offrande musicale est réellement destinée à Frédéric II ? Ou est-ce que ce terme d'offrande ne renverrait pas à quelque chose de plus haut et renverrait plutôt à une offrande au sens biblique de la...
Bah, toute l'humanité, alors, parce voilà, que s'il y a un projet d'évangélisation, ça veut dire qu'il est généralisé. Ouais.
Pourquoi pas, mais voilà. C'est un peu le rôle de prédicateur qu'il avait déjà à l'église quand il préludait sur les chorales, où en fait il préparait le message du pasteur en faisant une improvisation sur un prélude que tous les paroissiens reconnaissaient.
Dans le mot défiance, il y a défi, mais comme il y a toujours boucle chez Bach, quand il y a défi, il y a un peu défiance.
Oui, ça a l'air de transparaître quand même dans l'offrande musicale.
On pourrait parler du canon Quarendo in Veietis. Quand il dit chercher et vous trouverez, ça semble être une espèce de sagesse, mais quand on dit ça aujourd'hui dans la vie, on dit aussi si tu me cherches, tu me trouves. Quoi.
Oui, ouais. Bien sûr, mais en fait, il faut y voir plutôt le symbole du serment sur la montagne qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, donc qui est quand même quelque chose d'un peu plus sage qu'une simple défiance envers le roi. Je pense que au fond, Bach n'était pas quelqu'un qui voulait vraiment du mal au roi ou qui était extrêmement moqueur. Je pense qu'au fond de lui, il ne lui souhaite que du bien en tant que bon croyant qu'il est, et que il lui offre pour lui en fait la meilleure solution qui existe, qui est donc de suivre les préceptes. Les préceptes du Christ qui sont en fait tous énoncés dans ce sermon sur la montagne.
Alors c'est aussi dans cette offrande musicale qu'on trouve le fameux crab canon, donc on pourrait restituer en latin donc le canon crâne chrysanthe. Et alors vous, Vigiratine, vous y voyez un peu comme l'escalier en double hélice de Léonard de Vinci pour le château de Chambord, d'autres y voient un ruban de Möbius.
Voilà, c'est ça. Il y a des parallèles artistiques qui avaient déjà été faits avec le ruban de Möbius et le palindrome musical. Je pensais justement au canon à double hélice qu'on retrouve à Chambord, parce qu'en fait, un peu comme ce canon rétrograde, on peut y mettre, par exemple, une personne en haut de cet escalier, en tout cas du premier escalier, une personne en bas du deuxième escalier, et les deux personnes poursuivent leur chemin, se croisent en leur milieu, et donc la première personne est descendue, la deuxième personne est montée, et les deux se sont croisés, mais sur un axe qui, au fond, n'existe pas réellement, parce qu'ils ne se sont pas vus dans cet escalier, ils étaient chacun dans leur propre escalier, et pourtant ces deux escaliers fonctionnent, ces deux chemins fonctionnent, et les voies se croisent.
Et alors, dans les cadres de ces entretiens de musique ancienne en Sorbonne, David Mulroney vous a posé une question qui apparemment l'occupe depuis plusieurs décennies, à savoir pourquoi il y a dans l'offrande musicale 13 pièces et non 14, alors que la signature gématrique donc de 14 du nom de Bach apparaît partout, sauf apparemment dans le nombre de pièces.
Oui.
Et vous avez trouvé une réponse.
Oui, alors j'espère que c'est la bonne, mais... Oui, je fais des travaux sur la rhétorique de l'offrande musicale, et justement, la réponse se trouve dans le discours rhétorique, parce qu'on ne pense qu'aux pièces, donc qui sont réellement au nombre de 13, et qu'on considère généralement que les Ritschercher sont des exordes, donc des introductions. Mais avant chaque introduction, il faut, pour un bon discours, on sait ce qu'expliquaient les grands rhéteurs antiques, qu'il faut une bonne captatio beneventiae. Et en fait, cette captatio beneventiae est l'épître dédicatoire qu'on retrouve sur le folio A, et qui en fait est donc la première pièce de l'offrande musicale, qui est donc extra-musicale, mais qui est la première pièce du discours rhétorique, qui fait bien 14 parties dans le discours rhétorique.
D'accord, parce que même s'il n'y a aucune note dans cette épître, il faut la compter comme une pièce quand même, selon vous.
Voilà.
Et donc ça veut dire qu'il y en a bien 14.
Voilà.
Et
David Moroney, est-ce que ce serait vrai si on disait qu'un canon, c'est une partition pour une voix qui est chantée par plusieurs ?
Oui, bien sûr, on peut dire ça. C'est une belle définition, un peu courte, mais ça peut aller.
Alors qu'est-ce qui lui manque si elle est trop courte ?
D'abord, il a des canons qui ne sont pas pour des chanteurs, évidemment.
Oui.
Donc il a des pièces instrumentales. Mais j'aime bien revenir à l'origine de ce mot « canon ». Et au XVIe siècle, même au XVe siècle, quand on commence à avoir ces canons un peu compliqués en musique, le mot « canon » ne voulait pas dire un canon. Ça voulait dire tout simplement la règle. Donc, ouais. Le mot « canon » est souvent
au sens religieux,
suivi,
en fait.
Ouais. Oui, comme exactement. C'est ça, la loi canonique et tout ça. Donc, on avait souvent dans les manuscrits le mot « canon » qui est suivi de la règle qu'il faut comprendre pour réaliser la musique. Par exemple, canon, chanter le tout deux fois plus vite ou deux fois plus long, ou canon, chanter le tout à la quarte inférieure. Et donc, on a l'instruction qui suit le mot canon.
Mais alors, quand je dis...
Et oui. Parfois, on a canon, fuga, et... Fuga au XVe et XVIe siècle voulait dire non pas fugue comme on le pense maintenant, mais plutôt ce qu'on appelle un canon. Donc il y a une confusion entre les deux termes et cette confusion existait au XVIe siècle même. Donc la plus vieille définition que je connaisse, c'est celle de Johannes Tinctoris, un grand théoricien du XVe siècle. Et Tinctoris disait « canon est une règle où, sous une certaine obscurité... »
Ah, donc il induit l'énigme.
Oui, sous une certaine obscurité, on explique comment chanter la pièce. Et donc cette idée de certaine obscurité, évidemment, ça plaisait aux compositeurs et parfois juste aux copistes, parce qu'il y a des pièces parfois qui n'étaient pas écrites en forme obscure, mais que les copistes aimaient bien copier de façon obscure,
oui.
Pour créer le même genre de jeu que peut être un mot croisé aujourd'hui, par exemple.
Alors, un exemple de jeu, c'est quand on parle, par exemple, de canon rétrograde. Là, c'est quand une voix va dans un sens pendant que l'autre va dans le même sens pour le même texte.
Oui. Oui, un palindrome, comme on dit. Une musique en palindrome, on dit en français.
Oui, on dit palindrome en français, oui.
Et il y a la musique où il faut le lire dans les deux sens. Et il y a des textes qu'il faut les lire dans les deux sens aussi. Et parfois, on a même un canon où il faut lire la musique et le texte à l'envers.
D'ailleurs, donc ça veut dire que ce sont des jeux poétiques qui
oui.
arrivent dans l'exécution de la musique, en quelque sorte, qui sont importés en musique.
Oui, c'est exactement ça. Et je pense que l'idée de jeu est très importante, parce que le canon a eu très mauvaise presse, même au 18e, quand c'est plus l'habitude des compositeurs, à la deuxième partie du 18e, d'écrire des canons. Par exemple, Friedrich Wilhelm Marburg, un élève de Bach, et il dit « Quand je parle des canons, les gens ont un horrible regard sur leur visage et ils disent « Mon Dieu, c'est pas de la musique, ça ». Et donc, même au 18e, il y avait des gens qui détestaient les canons parce qu'ils trouvaient ça stérile et sans intérêt. Mais il y a des gens aujourd'hui qui trouvent ça une perte de temps de faire un mot croisé. C'est exactement le même genre de jeu.
Oui.
D'ailleurs, au 17e, il y a un grand jésuite, Athanasius Kircher, qui a publié à Rome un énorme tome de 800 pages en latin, qui s'appelle la Musurgia Universalis, et il y a tout un chapitre sur les canons, et à la fin, il parle de ça comme un lusus musici, c'est-à-dire un jeu de musicien. Et donc, c'est un jeu pour lui.
Oui, ça veut dire que même lui, qui le voit plutôt positivement, ne le voit pas tant que ça comme de la musique, mais d'abord comme un jeu, sauf que peut-être c'est pas si séparé que ça.
Mais il y a une place pour ce genre de jeu, pour revenir à votre définition de canon au début. Il y a aussi l'idée que c'est une pièce extrêmement courte sur le papier. C'est-à-dire, on a peut-être une ligne de musique avec, je sais pas, 10, 12, 20 notes maximum. Mais contenu dans ce petit fragment musical, il y a une pièce entière.
Alors c'est pour ça qu'il y a un enjeu de réalisation, c'est-à-dire
oui,
que on a une page sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'informations, mais il y a cette règle qui est donnée, qui est plus ou moins énigmatique, et une fois qu'on l'a décodée, ça nous permet de faire une véritable œuvre, en tout cas quelque chose qui a la dimension d'une œuvre avec simplement deux lignes de musique, en quelque
oui,
sorte.
Oui, c'est exactement ça. Donc parfois les canons peuvent être très longs. On peut avoir des motets ou des doubles motets qui durent 5 minutes, 6 minutes en tout. Et il y a un canon complètement caché à l'intérieur de la pièce qu'on n'entend pas vraiment. Parfois, il y a des œuvres au XVIe siècle où il y a le cantus firmus avec un plein chant qui est en longue note au milieu de la texture musicale. Et puis ça peut être présenté en canon. On a beaucoup de motets comme ça, de Josquin des Prés ou de Willaert ou de Zarlino et de Palestrina aussi. Palestrina, il adorait les canons. Il a composé 5 messes qui sont entièrement en canon. L'intérêt, c'est qu'il y a une incroyable concision de notation.
Mais ça veut dire qu'il y a aussi l'intérêt de composer long avec le moindre effort.
Oui, sauf que c'est un peu d'effort quand même. Hein,
c'est un peu d'effort de spéculation.
Pour que ça marche, il faut mettre un peu d'effort. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui commencent à écrire des canons, je pense aux pauvres étudiants dans les classes de contrepoint partout, à qui on demande d'écrire leur premier canon, et c'est un vrai casse-tête, ils trouvent ça horrible. Mais avec un peu d'habitude, on comprend les règles et on arrive à le faire plutôt rapidement. Il y a une très jolie phrase dans un livre anglais de la fin du XVIe siècle, le Plain and Easy Introduction to Practical Music, une introduction très simple à la musique pratique, non pas théorique, mais la musique pratique, de Thomas Morley, qui était élève du grand William Byrd. Il dédie le livre à Byrd, d'ailleurs. Il explique que parfois les canons sont complexes et que le pauvre musicien doit se gratter la tête pendant 6 heures pour trouver la solution. Et là, il n'est pas contre ce genre de pièce, il est contre plutôt la notation qui est obscure. Mais je pense qu'il nous a laissé assez de canons lui-même pour qu'on comprenne qu'il aimait bien cet exercice.
Alors vous, David Molonnet, dans le cadre des entretiens de musique ancienne en Sorbonne, vous avez focalisé sur les canon per tonos, ça veut dire quoi?
Ah, c'est une bonne question.
C'est un type de canon.
J'ai fait une communication d'une demi-heure là-dessus, et là, il faut que je résume en 30 secondes.
Vous avez le droit à une minute, allez.
Mais c'est gentil, merci. Parce que une grande partie de ma communication, c'était pour dire qu'on ne devrait pas utiliser ce terme, canon per tonos, pour la musique du XVIe et XVIIe siècle. Le terme date de 1754, après Bach, donc après la mort de Bach. Et ça veut dire que c'est un canon perpétuel, un canon qu'on arrive à la fin de la ligne musicale et il faut reprendre au début. Un peu comme Frère Jacques, par exemple, ça c'est un canon perpétuel. Quand on arrive.
Mais on reprend au début en changeant de ton, justement.
Je parlais juste du canon perpétuel,
oui,
d'abord.
Oui, c'est ça.
Donc avec un canon perpétuel, on continue à l'infini, mais sans changer les notes.
Donc c'est l'ancêtre de la musique répétitive, alors, le canon
fait,
perpétuel.
Ouais. Mais la spécificité du canon per tonos, c'est que à la reprise, on change de ton. Donc on peut commencer en do majeur, on arrive à la fin de la ligne et on revient au début, mais cette fois-ci, il faut chanter en ré majeur. On arrive à la fin de la ligne et on revient au début et maintenant on est en mi majeur. Et donc c'est doublement perpétuel parce que c'est perpétuel dans le temps parce qu'il faut toujours revenir au début et recommencer, mais c'est perpétuel dans la montée vers l'aigu. Et évidemment au bout de 6, 7, 8 répétitions, ça devient inchantable.
On atteint les limites de sa propre tessiture. Oui.
Exactement. Et donc c'est parfois une blague, là aussi, le premier canon de cette sorte, c'est de Willaert, c'est dans un très beau tableau du Titien, la Bacchanale des Andriens, qui est au Prado, à Madrid. Magnifique tableau sur les plaisirs du vin. Là, il y a un petit carré, une page de musique, parfaitement notée, avec une précision incroyable. Et c'est en effet le premier canon de cette sorte, où quand on arrive à la fin, la seule solution pour que l'harmonie ne soit pas absolument atonale du XXe siècle, c'est qu'à chaque reprise, chaque voix doit monter d'un ton. Et là, ça marche. Donc, en buvant, on élève la voix. et on commence à parler de plus en plus haut. Et c'est ça la blague, je pense. C'est une blague. Il y en a d'autres aussi, avec une technique absolument comparable, où à chaque reprise, on descend. Et ça aussi, ça peut être l'effet du vin. Mais ces canons qui descendent un peu vers l'enfer ou qui montent vers le ciel, c'était des blagues à l'époque. Mais, comme toutes les bonnes blagues, ça peut être sérieux aussi. Par exemple, l'un des élèves de Palestrina au Vatican, Giovanni Maria Nannino, il a composé beaucoup de ces canons qui changent de tessiture à chaque reprise. Mais il l'a fait très sérieusement. Par exemple, les deux plus beaux canons, per tono, si on peut utiliser ce terme, sont, si je peux dire, des canonisations des papes. Ces deux papes qui venaient de mourir, l'un après l'autre, à l'intervalle de 2 mois. Et Nannino a inscrit dans le diario, le journal de la chapelle Sixtine, des canons où la seule façon de chanter le canon, c'est de reprendre chaque fois un peu plus aigu, plus aigu, plus aigu. Mais il y a un texte écrit en dessous, « Ascendo ad patrem meam », « Je monte vers mon père ». Donc c'est effectivement une musique très sérieuse qui monte vers le ciel. Et bon, si les voix humaines ne peuvent pas continuer, peut-être les voix angéliques peuvent continuer à l'infini. Et je pense que c'est ça l'idée dans ces canons-là.
Ça pose la question de la circulation de ces canons. Qui les chante et où on les chante? Parce que si ce sont des écrits qui passent dans des publications de sociétés savantes ou bien sur des tableaux, c'est pas forcément le meilleur endroit pour qu'on le chante. En même temps, ce sont des partitions qui se recopient très vite pour faire des polyphonies très élaborées, donc on pourrait aussi le chanter à la fin d'un repas. Est-ce qu'on sait
l'endroit le plus bizarre que j'ai trouvé un tel canon? C'est curieusement, c'est à Vienne et c'est sur la tombe de Haydn.
Il s'est gravé.
Et il y a un canon par son élève Neukomm qui a été gravé sur la pierre tombale. Et c'est un canon d'une complexité extrême qui n'est pas si difficile à chanter une fois qu'on a compris la règle. C'est à 5 voix. Donc on a besoin de 5 chanteurs, mais là, pour faire un cycle complet et revenir au point de départ, il faut chanter les canons 60 fois. Donc là, je pense qu'on a affaire à nouveau aux voix des anges, plutôt, mais c'était encore un cas d'une chose extrêmement sérieuse, très, très concise, et faite en hommage à son maître. Et on sait que Haydn, il adorait faire les canons. Il les écrivait sur des bouts de papier, il les collait au mur et sur la fenêtre, sur la porte. Dans sa maison, il y avait des canons sur tout l'immeuble.
Et puis sur le portrait de Bach, par le peintre Hoffmann, Bach tient une partition qui a un canon à 6 voix.
À 6 voix,
c'est lui qui l'a composé ou c'est Hoffmann?
Oui. Non, c'est bien Bach. C'est d'une complexité intellectuelle, je n'imagine pas un autre que Bach. Et d'ailleurs, sa figure dans l'exemplaire personnel de Bach des variations Goldberg, qui a été redécouverte en 1984. Il y a une page à la fin où Bach ajoute 14 canons supplémentaires de sa main. Ce canon qui est dans le portrait figure dans cette page supplémentaire.
René Barbre, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que on peut dire que une œuvre qui est cryptée est en quelque sorte encore plus une œuvre? Elle aurait une espèce de plus-value d'esthétisme du fait d'avoir été cryptée?
Alors, je dirais que toute œuvre est esthétique dans un certain sens, mais des penseurs ne sont pas toujours d'accord sur les sens qu'il faut employer pour analyser une œuvre. Donc, par exemple, par rapport à ces œuvres cryptées dont on parle à cette conférence, le théoriste Zarlino voudrait qu'on les écoute seulement. D'autres théoristes, tels Hermann Finck, par exemple, inviterait une interprétation multisensorielle, non seulement à l'écoute, mais visionner, toucher, interpréter, de cette façon multimodale. Alors, il y a deux esthétiques ici. Il y a une esthétique basée sur l'ouïe, uniquement.
Celle de Zarlino.
Exactement.
Mais qui,
exactement,
par conséquent, oui, n'a pas cure pour les œuvres énigmatiques.
C'est vrai, c'est vrai. Par contre, l'opinion de Herman de Finck inviterait une esthétique différente. Donc il n'y a pas qu'une seule esthétique, c'est des façons différentes de s'engager avec ces œuvres cryptées. Mmh. Et ces engagements sensoriels différents invitent à des interprétations esthétiques différentes.
Parce que vous mobilisez des penseurs contemporains de la question esthétique, comme par exemple John Cochrane, pour questionner est-ce que l'obscurité vient être une valeur esthétique en tant que telle.
Oui, tout à fait. Alors, je ne vois pas les valeurs esthétiques au niveau seulement de la beauté ou du sublime. Les penseurs du XXIe siècle considèrent que l'esthétique, c'est des perceptions qui existent en rapport avec les qualités sensorielles des objets. Donc, on peut penser à toute une gamme de valeurs esthétiques. Et au niveau de ces œuvres musicales cryptées, l'obscurité, je dirais que oui, ça peut se présenter comme une valeur esthétique. Que ce soit une valeur acceptée ou non, après c'est une autre question.
Ouais. Est-ce que ça pose une question relativement basique, à savoir est-ce que par exemple, puisque Zarlino nous dit d'appréhender la musique que par l'oreille, si j'ai bien compris.
Tout à fait, il est très explicite à ce niveau-là.
D'accord, ouais. Et est-ce à dire qu'on peut reconnaître une œuvre cryptée rien qu'à l'oreille?
Ah, alors ce n'est pas toujours possible, non.
Ben oui.
C'est l'œuvre cryptée, forcément, possède un aspect caché. C'est-à-dire que si on cherche à comprendre l'œuvre cryptée en utilisant un seul sens, alors l'interprétation ne sera pas complète. Et justement, c'est l'aspect très intéressant de la musique cryptée, des énigmes. Ça invite à des interprétations à plusieurs niveaux.
Vous, il y a un niveau d'interprétation que vous n'avez pas envie de rater, c'est celui du contexte intellectuel dans lequel ces œuvres-là ont été créées.
Oui, alors plusieurs de ces œuvres touchent à des contextes qui ne sont pas strictement des contextes musicaux. Par exemple, liturgiques, les contextes sociales, par exemple. Et dans ces œuvres énigmes, parfois se cachent des commentaires ou des critiques par rapport à la vie intellectuelle de leurs auteurs. C'est un aspect très intéressant de ces œuvres, je trouve, et cela mérite notre considération.
Parce que ça veut dire que ce sont des œuvres qui cachent des messages.
Parfois, c'est le cas.
Qui ont nécessité à rester un peu en contrebande dans leur circulation, c'est ça?
Parfois, c'est bien le cas. Mmh. Oui.
Mais alors, si y a un tel poids de l'époque et du contexte intellectuel sur la production de ce type d'œuvre, pourquoi est-ce qu'on fait davantage de canons énigmatiques au XVIe siècle que dans les siècles antérieurs?
Ah oui, c'est une bonne question, ça. Alors, je crois que c'est en rapport avec la conception du savoir, justement. C'est avant le XVIe siècle, le XVIIe siècle, la conception du savoir est plus universelle, plus holistique. Évidemment, je parle très grosso modo, mais je crois que les canons énigmes nous montrent une tension quand même épistémique, vu que plusieurs théoristes et penseurs, tels Zarlino et bien d'autres aussi, ils disent non, ces canons énigmes ne valent pas notre attention. Et pourtant, ils continuent d'être créés, circulés jusqu'au XVIIe siècle et même plus loin. Donc à mon avis, cette situation nous montre que la vie intellectuelle au XVIe et XVIIe siècle n'est pas aussi uniforme qu'on penserait peut-être. Il y a une tension qui existe entre ces conceptions différentes de la pédagogie, du savoir, etc.
Parce qu'on peut aussi imaginer une espèce de dédoublement des adresses, c'est-à-dire on fait de la musique qui fait son office de musique et puis qui, au passage, aussi est une espèce de jeu intellectuel pour qui a envie de le creuser à ce titre-là. Ouais.
C'est vrai, et je crois que c'est parfois le cas que ces niveaux différents existent simultanément. Et justement, à ce moment-là, l'énigme devient un jeu pour ceux qui ont la motivation de s'y pencher un peu plus. Alors, il y a un aspect secret de l'énigme, et c'est cet aspect qui m'intrigue particulièrement. Ouais.
Parce que ce secret, il n'est pas toujours ésotérique.
Non, pas toujours. Mais au XVIIe, souvent.
Oui. C'est-à-dire qu'il est renvoyé à un message de nature plutôt religieuse.
Oui, spirituelle ouais. ou même néoplatoniste.
Oui.
Alors des pensées qui structureraient l'univers physique ainsi que l'univers du savoir en tant que niveaux différents qui se correspondraient. Alors on pourrait découvrir les secrets des niveaux cachés de la réalité en s'y appliquant, en cherchant à résoudre ces énigmes. Ouais.
Mais alors pour boucler, si on a expliqué pourquoi les canons énigmatiques sont si répandus au XVIe siècle, on pourrait se demander pourquoi est-ce que là maintenant, au XXIe siècle, on se met à nouveau à s'y intéresser. Est-ce que c'est le signe d'un état de notre savoir?
Ah, quelle question intéressante. Alors à mon avis, et ça c'est juste mon opinion, mais moi je vois des ressemblances, des correspondances entre notre époque de l'histoire et l'époque du XVIe, XVIIe, il y a des progrès incroyables en technologie de communication. Donc à notre époque, évidemment, tout ce qui est numérique, artificial intelligence et tout ça, ainsi que des changements politiques, religieux aussi. Et à mon avis, c'est possible d'étudier la musique de cette époque et de s'y retrouver.
Félix Véry, vous êtes violoniste et avec Alexandra Bjukowska, vous dirigez l'ensemble Uranometria qui se dédie aux curiosités sonores musicales de la Renaissance, on peut le dire comme ça ?
Oui, plutôt du XVIIe siècle, de la fin de la Renaissance aussi éventuellement, mais surtout du XVIIe siècle, avec effectivement des programmes sur des répertoires, on va dire, rarement abordés. Dont
les canons.
Dans ce cas-là, les canons, les énigmes musicales. Voilà.
Alors Giovanni Battista Vitali, par exemple, quand il fait des énigmes musicales, c'est dans quel cadre et pourquoi faire ?
Alors, la plupart de ces énigmes musicales, en fait toutes ces énigmes musicales, ont été publiées dans Artifici Musicali, qu'il a fait imprimer à Modène en 1689. C'est une collection d'une soixantaine de pièces qui comprend des canons, comme on aura... beaucoup dans des publications de la fin de la Renaissance, où il y a beaucoup de canons, certains réguliers, certains beaucoup plus énigmatiques. Et il y a aussi des pièces pour violon et basse continue qui ont des choses un petit peu extravagantes. Donc une sonate où la partie du violon est écrite en bémol et la partie de basse continue en enharmonie en dièse. Une passacaille qui module dans plein de tons différents. C'est très intéressant parce que son fils, Tommaso Antonio Vitali, a composé une célèbre chaconne, la fameuse chaconne de Vitali, qui est connue de tous les violonistes, qui utilise un peu le même procédé. Donc quelque part, on trouve cette origine dans cette collection Artifici Musicali.
Et donc ces jeux d'énigmes ont fini par pénétrer son, entre guillemets, vrai répertoire, parce que ça veut dire qu'il y a une sorte de frontière quand même.
Il y a une sorte de frontière parce que, comme la musique de Bononcini, l'autre musique que Vitali compose, c'est une musique qui correspond vraiment au canon de ce qui se faisait à l'époque. C'est une musique qui est assez, qui est un peu considérée comme un précurseur de la musique de Corelli, qui est un tout petit peu plus tardive. Mais quand on joue ces sonates pour violon, on ne se doute pas forcément qu'en même temps, il allait composer des canons énigmatiques, des labyrinthes musicaux, des pièces avec toutes sortes d'expérimentations. C'est un petit peu la même chose avec Bononcini d'ailleurs. C'était quelque chose que probablement tous les compositeurs savaient faire, étaient capables de faire. Et en tout cas, à Modène, il y avait une mode de pratiquer ce genre d'exercice.
On dit d'une énigme qu'il s'agit de la résoudre, et le mot résolution dans le cas de ces canons énigmatiques prend un sens un peu élargi parce qu'il s'agit aussi de jouer la résolution, c'est-à-dire une partition que l'on a déduite de la résolution de l'énigme qu'il y a sur la partition qui donne toutes les informations mais pas assez pour les jouer à vue en tout cas.
Oui, tout à fait, c'est ça, qui donne toutes les informations mais pas assez pour les jouer à vue. Ça c'est tout à fait ça, donc bon, chez Vitali en tout cas, on a vraiment une distinction entre des canons qui sont dans l'ensemble assez réguliers. Donc ça veut dire que c'est plus que simplement Frère Jacques. Hein. Ça reste des choses avec des canons rétrogrades ou des canons en mouvement contraire, des choses comme ça. Donc ça va être quand même quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais où il va toujours expliquer. En italien, il dit précisément ce qu'il faut faire. Et il y a un petit nombre de canons qui n'ont qu'une indication en latin, qui est énigmatique et qu'il faut arriver à décrypter, en plus de comprendre les signes qui sont sur la partition, qui sont très souvent des signes traditionnellement utilisés dans les canons, mais qui sont parfois placés à des endroits un peu étranges, qui peuvent donner des indications sur ce qu'il faut faire.
Ça veut dire qu'il peut y avoir, au moment de les décrypter, des petites incertitudes à savoir si on a trouvé la bonne solution.
Oui, tout à fait. Alors, dans le cas de Vitali et d'autres, comme ils ne donnent pas la solution des canons énigmatiques, la seule chose qu'on peut trouver, c'est une solution qui marche. Alors, en général, si on trouve une solution qui marche, c'est la bonne. Je ne connais pas de canon énigmatique dans lequel il y aurait plusieurs solutions. C'est pas impossible. Mais dans le cas des canons de Vitali, par exemple, ceux que j'ai résolus, j'ai trouvé une solution qui marchait. Mais il n'y a pas les réponses à la fin du livre. Ça, c'est, tout ce qu'on peut faire, c'est penser qu'on a compris la maxime en latin qui est pleine d'allégories, de choses pas tout à fait claires, qu'on peut interpréter de plusieurs manières. Il faut expérimenter, on passe par beaucoup de choses qui ont l'air de marcher et qui en fait ne marchent pas du tout au bout d'un moment. Et au final, tout ce qu'on peut avoir trouvé, c'est une solution qui fonctionne.
Quand vous jouez ces canons énigmatiques en public, vous projetez la partition quand vous avez des musicologues devant vous, mais c'est une manière de dire « attention, ceci est de la musique expérimentale du XVIIe siècle » et d'ailleurs, juste après, vous allez dire « oui, enfin, regardez comme c'est pas très beau
». Alors, c'est aussi parce que l'intérêt de ces pièces, c'est de comprendre comment elles sont faites, parce que ce ne sont certainement pas des pièces de concert. C'est des pièces pour lesquelles le public, c'est aussi la personne qui les fait. Parce que on a le plaisir d'avoir résolu l'énigme. Sinon, c'est un peu comme si on demandait à des gens d'assister à une partie d'échecs, mais ils ne connaissent absolument pas les règles. Ce serait un peu divertissant, mais on perdrait quand même une bonne partie de l'intérêt. Et en plus, effectivement, c'est des pièces en général très courtes, qui ne sont pas très très intéressantes. Alors nous, dans notre programme, justement, on les a mis en regard avec des vraies pièces, entre guillemets, qui utilisaient le même procédé ou des procédés similaires pour montrer qu'au final, c'est une technique qui peut aussi s'utiliser pour vraiment faire de la musique. Mais en les ayant fait, en les ayant joués sur la partition, il y a toujours un but pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a des canons, il va falloir sauter certaines notes, donc ça entraîne à la lecture en avance. Il y a des canons qui jouent sur les syllabes de solmisation, donc pour un jeune élève de musique du XVIIe siècle, ça pouvait être un exercice pour voir qu'il contrôlait bien ce système. Et il y a toujours un but pédagogique, mais évidemment, le jeu intellectuel, la résolution de l'énigme, dans l'esprit du XVIIe siècle, a aussi évidemment un but pédagogique de recherche intellectuelle.
Oui, parce qu'il faut une sacrée agilité pour lire ces partitions quand il faut sauter de la clé du 3 à la clé du 1 quasi en même temps.
Voilà, oui, alors il faut une certaine agilité et c'est aussi une agilité qui va en plus servir juste pour une pièce parce que le canon suivant aura des autres règles. Mais ouais. Voilà, on a vu aussi pendant le colloque des canons d'autres auteurs où il fallait noircir les notes blanches et blanchir les notes noires.
Ah oui, mais alors tout ça parce qu'il y a un éléphant. Alors là, il y a tout un
oui, dédale. Ça c'était c'était l'énigme avec l'éléphant qui est noir avec des défenses blanches sur l'illustration et qui dit qu'il est blanc avec des défenses noires dans le texte, et donc il fallait comprendre qu'il fallait noircir les notes blanches, blanchir les notes noires.
C'est-à-dire inverser les valeurs.
Inverser les valeurs, voilà. Et de manière encore plus compliquée, parce que pour des valeurs longues, les noircir, ça veut dire qu'en fait, on va les transformer en une valeur de 3 plutôt qu'une valeur de 4. Donc c'est un système qui est assez compliqué, qui probablement était aussi pour vérifier que les étudiants avaient bien assimilé les règles de notation, parce qu'il fallait être capable d'appliquer toutes ces règles d'altération des notes en temps réel. dans le cas du canon de l'éléphant, en plus, il y avait une référence plinienne. Donc, ça peut aussi être une manière de tester la culture générale de la personne qui va résoudre le canon, parce que dans certains cas, il faut avoir la référence culturelle ou la référence biblique. Il y a beaucoup de canons qui utilisent des citations bibliques pour vraiment réussir à résoudre le canon dans son entièreté.
On sait que Mozart avait par exemple écrit une partition pour deux violons, mais dans laquelle il n'y avait qu'une partie où il fallait soit la lire de haut en bas.
Un canon sur table.
Un canon sur table, c'est ça.
Chaque musicien se met d'un côté de la partition.
Mais alors là, on voit directement le côté spectaculaire que ça peut avoir dans un salon mondain. Alors que 102 ans avant la mort de Mozart, quand paraît cet artificier musicalier, est-ce qu'on sait que si c'est joué dans les salons ou c'est juste entre maître et élève par exemple?
Alors ça, je ne peux pas répondre à cette question.
C'est pas
de
documenté
manière claire.
Comme ça, ouais.
C'est probablement documenté, mais à mon avis, c'est plutôt un jeu intellectuel qui se destine avant tout à la personne qui va résoudre le canon. Et chez Mozart, c'est une. Pour moi, le canon de table de Mozart montre que ce type de technique était utilisé jusqu'à tardivement. C'est-à-dire que
oui, à l'époque
de Mozart, on savait encore le faire. Et le point commun, c'est que c'est quelque chose qui se fait par jeu. Pour Mozart, c'est un jeu. Aussi, c'est un morceau de bravoure d'être capable d'écrire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un canon rétrograde. C'est un canon qui joue aussi sur tout le système de notation, de portée à cinq lignes et de lecture de clés, parce que lire la partition dans les deux sens. Il y a une pièce comme ça dans les Artifici Musicali qui donne, c'est autrement impressionnant parce que ça ne donne pas une autre musique, mais ça donne la même musique, c'est-à-dire qu'on peut lire la partition en regardant la feuille d'un côté ou de l'autre et ça donne exactement la même musique. Parce que la clé, c'est la clé du 3 qui est au milieu de la portée, donc ça fait que on peut la lire dans les deux sens, quoi. Après, le canon est de toute façon quelque chose de combinatoire, parce que pour composer un canon, il faut connaître des combinaisons d'intervalles. Le canon est quelque chose qui s'improvise normalement aussi. Et c'est pour ça que c'est un but pédagogique important, parce que ça se faisait entre un maître et un élève. Soit le maître chantait le canon et l'élève devait le résoudre. Ça veut dire qu'il devait être capable de chanter quelque chose tout en écoutant ce qui était en train de se passer pour pouvoir le répéter après, éventuellement avec une transposition et ou une augmentation ou une diminution rythmique. Quelquefois, c'était aussi peut-être l'élève qui devait commencer le canon. C'est-à-dire qu'il fallait aussi être capable d'inventer quelque chose dont on savait que ça allait pouvoir être répété ensuite, éventuellement, avec ce jeu de transposition. Donc c'est, de toute façon, quand on apprend à faire des canons, on apprend à faire des combinaisons d'intervalles qui fonctionnent ensemble. Ce qu'on apprend à faire quand on apprend à faire du contrepoint improvisé aussi, c'est... On sait que tel intervalle, si on utilise tel intervalle, une note contre une autre note, on va être sûr que ça va toujours marcher. Il y a des choses qui sont un peu plus risquées et des choses qui ne marchent pas du tout.
Et c'est pour ça que ça apparaît donc au XVIIe siècle avec le calcul de probabilité. Il n'y en a pas avant.
Alors ça, je ne sais pas exactement dans quelle mesure c'est théorisé avant, parce que bon, des canons, il y en a depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et à l'Ars Subtilior, on a des exemples de combinaisons de musique un peu combinatoire qui sont aussi très très impressionnants, pas moins impressionnants que les canons énigmatiques. qui viennent de cette tradition d'ailleurs.
Vincent Chaumienne, au cours de ces entretiens de musique ancienne en Sorbonne, on a entendu que le canon énigmatique fleuri au cours de la Renaissance semble associé à l'humanisme, sauf que vous affirmez que déjà dans les siècles antérieurs, il y avait des choses comme ça.
Alors bah oui, absolument, parce que la musique au Moyen-Âge fait partie du quadrivium, qui sont les arts du nombre, avec les mathématiques, l'arithmétique et l'astronomie. Et donc en fait, les compositeurs ont toujours cherché à manipuler le rythme et essayer de pousser la notation dans les plus lointains retranchements. Et en fait, on peut voir, alors on sort peut-être de la catégorie énigme-jeu qu'on peut vraiment retrouver à la Renaissance, mais on peut voir par exemple que vraiment tout début de la notation, les premières entre guillemets énigmes musicales, on pourrait voir par exemple un neume est une énigme musicale pour nous actuellement, parce que on ne sait pas comment ça se chante. Donc c'est que par la tradition orale que quelqu'un qui connaît va nous donner les indices pour résoudre cette énigme.
Qu'est-ce qu'on appelle l'art subtilior ?
Alors l'art subtilior, c'est l'écriture musicale qui arrive à la toute fin du XIVe siècle. Au tout début du XIVe, l'Ars Nova fait une énorme révolution dans la musique. En parallèle, il y a le Trecento italien qui se développe. Et à la toute fin du XIVe siècle, il y a une espèce de mélange qui va s'opérer et qui va arriver dans des notations vraiment extrêmement élaborées en utilisant la coloration, évidée. Donc par exemple, dans une pièce du Codex Chantilly, vous avez de la notation noire, de la notation rouge, de la notation noire blanchie, c'est-à-dire juste le tour en noir et blanc à l'intérieur, et de la notation rouge blanchie. Et donc là, en fait, les compositeurs vont vraiment s'amuser à pousser la notation dans ces derniers retranchements.
Et là, cette sophistication formelle, elle est presque, on pourrait dire, un plagiat par anticipation de ce que seront les canons énigmatiques, c'est-à-dire tout un jeu d'encodage pour créer quoi ? Alors, un texte à plusieurs niveaux ?
Alors, pour créer, je pense, des œuvres qui peuvent se lire à plusieurs niveaux, parce qu'après, donc, il y a tout le travail rythmique sur le 3 et le 2, donc après, qui sont des chiffres importants, et puis, comme je l'ai dit, ils étaient donc dans un art du nombre, donc ils avaient une connaissance mathématique gigantesque, et après, pour illustrer le texte, ils vont faire des choses assez torturées pour, par exemple, dans la pièce que j'ai présentée à la Sorbonne, il y a un passage assez troublant, presque un peu dissonant, et c'est le moment où le poète dit qu'il est dans le jardin gardé par la châtelaine et qu'en fait il ne pourra pas sortir de ce jardin sans se percer le cœur des ronces qui sont là et qu'il aura le cœur qui saigne et tout ça. Donc il y a une imagerie de l'amour courtois et de l'amour qui est énorme. Donc je pense qu'ils ont vraiment utilisé toutes les possibilités de leur notation pour illustrer tout ça.
Mais alors, quel genre de partition on trouve fin 14e ou au 15e siècle où clairement il y a un jeu d'écriture qui ne se donne pas au premier degré précisément, qui demande une résolution.
Ouais. Alors, je vois plusieurs exemples en fait. Il y a des énigmes de jeu, un petit peu, comme on aura à la Renaissance. Et ça, on a des exemples qui sont assez connus, comme par exemple Belle, bonne et sage de Baud Cordier, qui est dessiné en forme de cœur. Il y a Tout par compas suis composé, qui est écrit donc un canon circulaire, donc complètement en cercle. Il y a aussi de Machaut, le rondo 14, qui s'appelle Ma fin et mon commencement. Là, on a une petite indication dans le texte comme quoi il va se passer quelque chose entre le début et la fin.
C'est-à-dire qu'il faut déduire du texte poétique une façon de lire la partition.
Exactement. Alors là, dans ces cas-là, effectivement, c'est le cas. Dans Ma fin et mon commencement, il y a la mélodie qui va donc du début à la fin, pendant que le contrepoint va de la fin au début. Et on peut voir ça aussi parce que les paroles du B, c'est un rondo, les paroles du B sont écrites à l'envers, donc il faut repartir dans l'autre sens pour le lire.
C'est-à-dire que le rétrograde poétique indique un rétrograde
exactement,
musical.
Exactement. Et puis après, il y a un autre exemple qui est un peu moins connu, qui est dans le manuscrit de Berkeley. C'est un anonyme qui s'appelle En la maison d'Édalus et qui est écrit en labyrinthe. Et c'est-à-dire, il faut résoudre le labyrinthe pour avoir la mélodie et le contrepoint. Ça, c'est des énigmes, je dirais, vraiment qui préfigurent celles de la Renaissance. Avec là, on a vraiment voulu jouer. Et je pense qu'on peut voir un autre type d'énigme dans, par exemple, l'osso périlleux que j'ai présenté la semaine dernière, et là qui est une énigme pour nous, mais qui n'a pas été voulu, qui n'a pas été écrit comme un jeu. Je prends c'est David Chapuis qui a eu cet exemple qui m'a grandement éclairé. C'est, par exemple, les hiéroglyphes étaient une énigme pour Champollion et pour les hommes de son temps. Mais les gens qui ont écrit la pierre de Rosette n'ont pas cherché à dissimuler quoi que ce soit. Ils écrivaient juste dans un langage qui nous est inconnu et qu'il nous faut déchiffrer. C'est une énigme pour nous, ça n'est pas une pour eux. Je vois un petit peu l'écriture de l'art subtilior un petit peu comme ça. Le notateur savait très bien ce qu'il notait. Et après, c'est vrai qu'il fallait avoir les compétences suffisantes pour déchiffrer ça. Et nous, c'est ce qu'on recherche. Quelles étaient les compétences de ces gens pour arriver à déchiffrer ça? Et c'est vrai que c'est une énigme qui est tout aussi passionnante, parce que là, il n'y a pas de texte qui nous dit attention, là il y a un jeu, il va falloir résoudre. Alors, dans le saut périlleux, il y a effectivement un canon qui nous explique les signes mensurels un petit peu particuliers que le notateur a utilisé.
Parce qu'il fonctionne comment, ce saut périlleux?
Alors, ce saut périlleux, c'est donc une ballade française. Donc on voit qu'il y a trois parties. La première partie est répétée deux fois. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Johannes Gallio, donc le compositeur, a utilisé des signes mensurels qui sont assez inhabituels, notamment le rond avec deux points, le rond avec trois points, et il va jouer, donc dans ce canon, il explique qu'il va jouer avec les proportions rythmiques. Donc il utilise un C aussi, qui lui est un signe mensurel qui est défini, mais il l'utilise d'une autre manière. Et donc il dit que là, quand on va écrire en C, on va passer en proportion sesquitierce. Mmh. C'est-à-dire que là où on avait trois notes, on va en mettre quatre. Là où il y avait deux notes, on va en mettre trois. Et le dernier, qui est la proportion la plus bizarre dans cette œuvre, qui est le rond avec trois points. Et il va utiliser ça pour signifier la sesquioctave. C'est-à-dire que là où il y avait huit notes, ben on va en mettre neuf. Et là, ça dépasse en fait la mensura. Donc là, ça devient très 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 complexe à appréhender, à voir comment il ressentait ce rythme aussi. Donc tous ces jeux rythmiques et ces jeux de proportions, qui sont des jeux mathématiques au final. Et ils étaient vraiment très très friands de ça.
Musique.